Chapitre 29. C'est de la mise en scène, affirmait Long à son chef. Le malheureux était mort avant d'avoir été pendu. Une balle au cœur, confirma le médecin légiste. Ces gens sont donc danois ? Long secoua la tête. Alors, de quel pays sont-ils ? Bon, je ne puis vous le dire, sans doute certains d'entre eux ont-ils fait leur éducation au Danemark. Et, changeant de ton, au fait, vous ai-je jamais montré ceci ? Il tirait de sa poche une carte où une série de dates était inscrite. Oui, j'avais déjà vu. Le colonel, qui était un homme méthodique, comptait les dates. Ben, il y en a une d'en plus, remarqua-t-il. Long eut un bref sourire. Oui, ajouté récemment, exactement avant-hier. Oui, évidemment, la date du 1er août était réservée à Mankford, mais le 16 août. Mais le 16 août m'est réservé, dit gaiement le détective. Ils ont décidé de me supprimer ce jour-là. J'ai donc plus guère qu'une semaine à vivre. Ma foi, n'en suis pas fâché. Son chef le regarda avec étonnement. Déjà là de la vie ? Oh, de ce genre de vie, oui. Dites-moi, chef, ne m'avez-vous pas fait remarquer que mon père avait toujours été épargné par Clay Shelton ? Oui, c'est vrai, vous m'aviez dit que vous lui en toucheriez deux mots. Eh bien, je l'ai fait, mais je vais encore le remettre ce soir sur ce sujet. Vous êtes toujours très ami avec votre père ? Très, il s'inquiète de moi, il voudrait que je revienne auprès de lui. Il ne disait pas que Sir Godley le suppliait constamment de quitter son poste à la préfecture et que ce matin même il lui avait écrit pour hâter sa décision une longue lettre. Donc, en quittant Scotland Yard, Arnold se rendit à Berkeley Square et se fit annoncer chez son père. Celui-ci s'habillait pour se rendre en ville. Il reçut son fils dans sa chambre. « Eh bien, m'apportez-vous la réponse à ma lettre ?» Arnold commença par s'installer dans un fauteuil. « Mon cher père, ce n'est pas de cela que je viens vous parler. »« Ah, ah !» fit Sir Godley, qui bataillait avec son nœud de cravate. « Vous vous rappelez que nous avons parlé ensemble du fait que Clay Shelton ne vous avait jamais volé ?»« Oui, parfaitement. »« Alors pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il vous avait eu de 80 000 livres ?»« Oui, je viens de découvrir la chose. » Sir Godley ne se retourna pas. « Oh, décidément, dit-il, il y a en vous l'étoffe d'un véritable policier. » Oh, peine perdue que votre ironie. Alors, je tiens une partie de votre secret. Dites-moi qui était né le 1er juin 1854. Oh, Dieu le sait, fit le père en s'examinant dans la glace. Mais qui était J.X.T.L. ? Vous ne voulez pas me le dire ? Soit, c'est moi qui répondrai. J.X.T.L. signifie John Xavier Towler Long. Et John Xavier Towler Long n'était autre que Clay Shelton. Vous en êtes sûr ? Fit Sir Godley en passant une épingle à sa cravate. Comme je suis sûr que ce Clay Shelton que j'ai envoyé au gibet était votre frère. Sir Godley ne trahit aucune émotion. Il dit simplement : Comment le savez-vous ? Très simple. Sur le bateau de Shelton, j'ai trouvé une série de graves gravées sur un panneau. J'ai naturellement pensé qu'elles avaient une signification. Il m'a paru assez vite que la première de ces dettes, de ces dates était celle d'une date de naissance. Elle était suivie des initiales J.X.T.L. Or, X est une initiale peu courante, elle ne peut s'appliquer qu'à quatre ou cinq prénoms. J'ai fait rassembler les noms des enfants nés le 1er juin et inscrits sous des prénoms ayant ces initiales. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que JXTL s'appliquait à John Xavier Towler Long, déclaré ce jour-là. Towler était le nom de notre grand-mère, n'est-ce pas? Sir Godley eut un geste affirmatif. Une telle coïncidence m'aurait déjà surpris, mais j'ai pu voir que JXTL étaient les initiales de mon grand-père, lequel se maria deux fois. Vous étiez le fils du second mariage. Oui, fit encore Sir Godley. Alors pourquoi m'avoir laissé découvrir tout cela? Son père eut un rire silencieux. Bon, je ne me vois guère me prévalant de ma parenté avec un homme de la réputation de John, dit-il. En réalité, je le connaissais à peine. Il avait 10 ans de plus que moi, et je me souviens de lui que par le récit de ses incartades et des soucis qu'il donnait à notre père. Après un scandale trop accusé, il disparut complètement. Je n'en entendis plus parler jusqu'au jour où je vis son portrait dans les journaux. Même alors, j'ai eu du mal à le reconnaître. Mais ce jour-là, vous ne doutiez plus qu'il ne fît qu'un avec Clay Shelton. Le visage du banquier s'était assombri. Oui, j'ai su alors que mon frère était le plus grand bandit qui fût. Oh, il avait déjà brisé le cœur de mon père. Il avait risqué de me ruiner, moi et toute notre famille. C'est une des raisons pour lesquelles je désirais tant pouvoir renoncer à votre profession. Il m'était pénible de vous voir poursuivre jusqu'à la mort un homme de votre sang, et je souffrais aussi de penser que vous risquiez votre vie, puisque Shelton a laissé derrière lui une bande pour continuer son œuvre effroyable. Mais depuis sa mort, il n'y a plus eu de faux. Sans doute, mais croyez-moi, Clay, c'était son surnom de petit garçon, possédait une imagination féconde et des dons d'organisation implacables. Il a certainement laissé les instruments et les choses nécessaires pour continuer ce qu'il avait si bien commencé. En ce moment, la bande est sans argent. Vous pouvez me croire lorsque je vous dis que les terribles sont dans une situation financière effroyable. Ainsi poussés à bout, ils n'en sont que plus redoutables. Et de quelle façon? Sir Godley haussa les épaules. Ben, Montfort a été tué. Vous pouvez être sûr qu'ils en voulaient à son seul argent. Mais vous en savez plus que moi. Qu'est-il arrivé depuis cet assassinat? Arnold raconta les derniers événements. Sir Godley écoutait silencieusement. Il dit enfin: Ah, vous voyez bien qu'il voulait s'approprier l'héritage de Montfort. Cette malheureuse jeune fille n'était qu'un instrument entre leurs mains. Pauvre Clay, vous le connaissiez? Quand avez-vous commencé à le soupçonner? Le jour même où j'ai arrêté Shelton. Clay était là et je suis sûr qu'il y était comme complice. Clay Shelton n'avait pas l'habitude de porter une arme sur lui. Après son arrestation, j'ai pu examiner ses vêtements. Il ne présentait aucune des traces que laisse d'habitude un Browning dans une poche. Non, non, c'est Clay qui lui avait glissé le revolver avec lequel il tua mon malheureux collègue. J'ai d'ailleurs retrouvé le vendeur de ce revolver qui avait été acheté en Belgique, à Spa, 6 mois plus tôt. À cette même date, Crowley se trouvait à Spa. Bon, maintenant, à votre tour. Connaissez-vous Miss Riverstock? Non, je l'ai vue. Je vais même me t'ai présenté, mais je ne puis pas dire que je la connaisse. Supposeriez-vous par hasard qu'elle fasse partie de la bande? Oh, ce serait absurde. J'ai toujours entendu dire du bien d'elle. Certes, fit Arnold, oh, c'est une femme parfaite. Je puis cependant vous assurer qu'elle était le trésorier de la bande à Shelton. Mongfard m'avait dit lui-même qu'elle avait à son compte à peu près 1 million de livres qui provenaient de l'héritage de son frère. Et il m'a été impossible de découvrir la moindre trace de ce frère. Arnold resta songeur pendant quelques minutes, puis il reprit, comme se parlant à lui-même. Mais pourquoi diable tous ces gens-là continuent-ils encore après la mort de l'étonnant instigateur que fut Shelton? Au fait, vous venez m'en donner la raison. Ils n'ont plus le sou, mais ils sentent entre les mains certains moyens de se refaire. Ils veulent à la fois s'enrichir et venger leur chef. Ils n'ont tué Mountford que pour faire hériter Nora. Et ils veulent maintenant s'emparer de Nora pour toucher l'héritage. Sir Godley regarda son fils avec un intérêt ironique. Il me semble que Miss Nora Sanders vous intéresse particulièrement, mon cher. J'accepterai encore de l'avoir pour belle-fille, mais je tiendrai auparavant à ce que vous choisissiez un métier plus sérieux que le vôtre. Ah oui, par exemple, que je m'engage parmi les terribles. Ce serait pas mal, mais j'aime encore mieux être un bon policier bien vivant. Eh bien, voilà bien le hic. Que vous soyez bon policier, j'y vois pas d'inconvénient. Mais je voudrais être sûr de vous garder vivant. À vrai dire, Arnold avait passé un assez mauvais moment lorsqu'il avait acquis la certitude que l'homme qu'il avait envoyé à la potence n'était autre que son oncle. Depuis, il ne pouvait penser à cette exécution sans sentir un frisson désagréable glisser le long de son dos. Il se demandait aussi si les terribles connaissaient cette parenté. Il se dressa. Une idée lui était venue. Il aimait pendre les gens hors de garde. Cela donnait souvent de bons résultats. Pourquoi ne pas essayer avec Miss Revelstoke? Il prit rapidement congé de son père, puis il se dirigea vers la maison de santé où Nora avait été transportée. Chapitre 30. C'est lui qui avait exigé le transfert de la jeune fille dans un endroit où elle put se reposer sous une bonne surveillance. En vain, la jeune fille avait-elle protesté, arguant de ses obligations envers Mademoiselle Revelstoke. Long avait été inflexible. On lui avait téléphoné dans l'après-midi que Mademoiselle Rebelstock viendrait rendre visite à sa secrétaire à 6 heures. Il alla attendre dans le salon l'arrivée de la vieille dame, qui d'ailleurs ne marqua aucune surprise de le rencontrer. Elle lui dit même, du ton le plus cordial, Ah, il y a longtemps que je voulais vous voir, monsieur Long. Qu'est-il donc arrivé à ma pauvre secrétaire? On m'a dit qu'elle avait été enlevée, puis à moitié noyée, mais que signifient toutes ces histoires? Il l'observait pendant qu'elle parlait. Elle avait beaucoup vieilli au cours de ces dernières semaines. Il avait été frappé à Hersey's par le teint net de son visage à peine ridé. Aujourd'hui, des sillons profonds creusaient son front et ses tempes. Il y avait dans ses yeux une expression hagarde qui était presque tragique. Pourtant, ses gestes et sa parole restaient exempts de nervosité. Oh, cette femme possédait à coup sûr un admirable empire sur elle-même. Est-il vrai que Crowley soit mort? demanda-t-elle. Oui, oh, ne le dites pas à Nora, cela la troublerait. Entendu. C'est affreux, Mountford d'abord, puis Crowley, mais cela me tourmente beaucoup. Et vous oubliez Clyde Shelton, dit-il en la regardant fixement. Mon pauvre oncle. L'attaque avait porté. La flegmatique interlocutrice d'Arnold avait visiblement pâli. Cependant, elle questionnait. Je ne comprends pas, votre oncle. Mais oui, c'était le demi-frère de mon père, l'ignoriez-vous? Son véritable nom était John Xavier Towler Long. Cela vous étonne? Oh, j'en sais beaucoup maintenant sur mon oncle John. Et il poursuivit après un léger rire, quelque peu féroce. En 83, il épousa une jeune fille du nom de Rynton, qu'il abandonna par la suite. Mon père prétend que cette femme est morte il y a quelques années. Mademoiselle Revelstoke avait retrouvé son sang-froid. Vraiment, cher monsieur, je ne m'attendais guère à apprendre que vous eussiez une parenté aussi honorable. Croyez-vous que je puisse monter voir Nora? Eh bien, nous montons ensemble, si vous le voulez bien. Oh, cela ne semblait pas convenir à la dame. C'est que j'ai à discuter certaines choses privées avec ma secrétaire. Ne craignez rien, je me boucherai les oreilles. Il montait déjà l'escalier, la précédant. Nora était étendue, lisant un livre. Pauvre enfant, dit la vieille femme d'une voix sympathique. Voilà que vous devenez aussi ridicule que Monsieur Long, et que vous vous mettez à vivre dans une atmosphère de mélodrame. Mais êtes-vous très malade? La jeune fille secoua la tête. Non, pas du tout. Je me porte très bien, mais on veut absolument que je reste ici. C'est-à-dire votre ami Arnold Long, n'est-ce pas? Comme il est touchant de pouvoir compter sur un dévouement aussi fraternel. Maternel, suggéra Arnold. Mademoiselle Revelstoke le regarda. Puis-je parler à Nora en particulier? Il se dirigea à l'autre extrémité de la chambre et se mit à regarder par la fenêtre. Son oreille était très fine et il ne perdit pas un mot de la conversation qui s'engagea alors à voix basse. Miss Revelstoke disait: puis-je dire à Henri de venir vous voir? La jeune fille hésita et dirigea un regard vers le policier. Non, ne le consultez pas. Vous savez bien qu'il ne peut pas souffrir Henri, et je désire que vous le voyez seul. Nora ne savait que répondre. Mon Dieu, il serait peut-être préférable que je ne voie personne. Dites-moi plutôt ce qu'il veut. Il a quelque chose à vous dire, un message dont Monkford l'avait chargé avant de rédiger son testament. Cependant, voyant que la jeune fille continuait à chercher les yeux d'Arnold, elle sourit. Bien, bien, je n'insiste pas, mais ne parlez point de ma demande à votre ami, hein? Dites-moi, Miss Revelstoke, a-t-on enfin des nouvelles de M. Crowley? Long se retourna vivement en entendant ces derniers mots. Non, dit après un moment de réflexion la vieille dame. Nora eut un soupir. Il avait été bon pour moi et j'ai bien peur. Arnold savait ce qu'elle appréhendait. Il en fut presque assuré. Il ne serait plus très difficile de lui annoncer la vérité. Chapitre 31. Le lendemain, Long se trouvait confortablement installé chez lui, fumant des cigarettes et réfléchissant aux derniers événements qui avaient marqué la lutte contre les terribles. Il se demandait, entre autres choses, quelle pouvait être la liaison entre ceux qui décidaient et organisaient et ceux qui agissaient. Il lui donnait beaucoup pour connaître l'homme qui transmettait les ordres. Était-ce Henri l'avocat? Certes, le jeune maître était souvent en relation avec des criminels, bien que sa clientèle se recrutât parmi les gens d'affaires. Rouche avait été désigné pour surveiller maître Henri, mais il avait encore eu la moindre occasion de le prendre en défaut. En vérité, le découragement commençait à gagner Arnold. Il allumait sans entrain une nouvelle cigarette quand son valet lui apporta une lettre dont la souscription était de la main du Sieur Cravel. Quant à la lettre elle-même, elle était écrite à la machine. « Cher Monsieur Lang, comme vous pouvez le supposer, la saison s'achève pour nous en désastre. La mort tragique de Montford a contribué à faire le vide dans notre maison. La victime étant non seulement un client, mais aussi un de mes amis, et je suis depuis très déprimé par ce drame. À ce propos, j'aurais quelques idées dont je voudrais vous faire part, encore qu'elles puissent vous sembler fantastiques. Voulez-vous venir vers le 16, date à laquelle je serai à Hertz's? Je vous dirai tout ce que je pense et j'aurai plaisir à vous voir. » Arnold eut un léger sourire. Le 16 août était la date fixée par avance. L'araignée invitait la mouche à se précipiter dans la toile. Mais tel était le caractère de Long, qui ne repoussait pas définitivement toute idée de se rendre au rendez-vous. Ne fallait-il pas qu'il découvre le mystérieux agent de liaison? Il plia la lettre et la rangea soigneusement dans un tiroir. Tout à coup, il songea que la date gravée sur le panneau du bateau, étant justement le 16, on ne lui parlait si ouvertement de cette date qu'afin de le tromper. En réalité, le danger devait se trouver avant le 16. Il se mit à forger des hypothèses sur la façon dont ce danger se présenterait. Il était tellement imprégné de ses idées de défense qu'il sursauta quand son domestique frappa à la porte. « Entrez !» cria-t-il. Le valet apparut, puis après avoir fermé la porte, demanda à voix basse « Voulez-vous recevoir Mademoiselle Cravel, monsieur ?» Chapitre 32. Alice Cravel fut introduite dans la bibliothèque. Comme toujours, elle était très élégamment habillée. Long, pour peu qu'il fût familier avec la haute couture, devinait que le trois pièces porté par la jeune fille sortait d'une très bonne maison. Mais ce qui le surprit plus que le luxe dont faisait état sa visiteuse était l'expression qu'il lisait sur la figure de celle-ci. Ses traits étaient pâles et contractés. On aurait pu supposer qu'elle n'avait pas dormi depuis une semaine. Elle regardait Arnold sans mot dire, attendant que le domestique quittait la pièce. « Asseyez-vous, mademoiselle. »«
Merci, je préfère rester debout. »
Même dureté dans la voix que dans l'expression. Il était évident que la jeune fille traversait une crise. Elle parla et ses premiers mots surprirent Arnold. Elle demanda «
Tenez-vous beaucoup à la vie ?»«
Oh, mon Dieu, plutôt !» Crayley aussi y tenait. Ses manières et le ton de sa voix étaient tels qu'au début, du moins, Long la soupçonna de n'être pas dans son état normal. Elle poursuivait.
« Oui, Jackson Crayley aimait la vie. Vous le preniez pour un imbécile et vous pensiez que sa manie du jardinage n'était qu'une affectation. Détrompez-vous, la couleur, le parfum de ses fleurs était pour lui une joie. Jackson aimait les belles choses. »
Il ne répondait pas, regardant le sol devant lui.
« J'imagine qu'il existe autre chose pour vous dans la vie qu'emprisonner les gens ou les envoyer à la potence. Après tout, peut-être, vous aussi, avez-vous le goût de la beauté, de la nature, du lever et du coucher du soleil, des fleurs, du printemps. »
Sa voix tremblait, on sentait
qu'elle faisait un effort pour refréner son émotion. Mais naturellement, j'aime tout cela, et je déteste ce qui est laid. Long avait parlé avec force et il la regardait en face, la tête un peu inclinée car elle était beaucoup plus petite que lui. Elle haussa les épaules. « Mais lui aussi disait cela, » fit-elle à voix basse. « Et maintenant, il est mort, mort. » Elle se couvrit les yeux de sa main gantée, et comme elle était sur le point de chanceler, il approcha une chaise derrière elle. « Non, 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 » fit-elle impatiemment. « Oh, j'ai une chose à vous dire, monsieur Long. Je vous déteste, entendez-vous? Je ne puis vous dire combien. Et pourtant, je ne désire pas votre mort. » Elle répéta plusieurs fois. « Je ne désire pas votre mort. Je veux que vous viviez, car je suis fatigué de toutes choses horribles et l'odeur de tout ce sang me hante affreusement. » Elle s'agitait en parlant, comme si elle fût sur le point d'avoir une attaque de nerfs. Puis elle reprit. « Il y a d'autres raisons à mon désir de vous voir vivre que ma fatigue et que ma sensation d'être poursuivi par les fantômes de ces morts. » Ses yeux eurent alors une expression d'angoisse intense. « Abandonnez cette affaire, allez-vous-en, laissez-les, terribles, et tout ce qui les concerne. Croyez-moi. Pourquoi ? Mais pourquoi poursuivre ? Allez-vous-en pendant un mois, pendant deux mois. Ils vous auront certainement. Vous l'avez échappé de peu le soir où vous m'avez rencontré. Tout ce que je vous ai raconté alors était faux, et d'ailleurs, vous l'avez deviné. Je faisais partie du complot qui avait décidé votre mort. Mais d'où vient cette affreuse sentence ? Elle secoua la tête. Ah non, cela, je ne vous le dirai pas. Mais ne voulez-vous pas suivre mon conseil ? Et ne fais-je pas tout ce que je peux pour vous en prévenant ? L'homme s'obstinait. Mais qui avait décidé ma mort ? Mais qu'importe ! Faites attention à vous, voilà tout. Était-ce votre frère, Henri ? Le visage de la jeune femme est une crispation. Oh, je risque beaucoup en venant vous parler comme je le fais. Vous n'avez pas cessé de surveiller mes mains et pourtant j'aurais déjà pu vous abattre. Vous imaginez que je divague alors que je ne dis que la plus simple vérité. Un jour peut-être, vous me croirez, mais il sera trop tard. Oui, je sais, je vous impressionne un peu parce que je suis une femme. Vous hésitez à vous défendre contre moi, mais si j'étais un homme, vous ne pourriez ni me saisir, ni tirer sur moi. » Elle leva sa main gantée au-dessus de sa tête. Il y eut alors un éclair qui aveugla le policier et le fit reculer en arrière. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il voyait des soleils d'or danser devant lui et des nuages de fumée blanche monter lentement vers le plafond. « Un simple éclair de magnésium, mais j'aurais pu vous tuer comme un chien. Vous rendez-vous compte ?» Arnold respira profondément. « Je pense bien que je vous crois, » dit-il avec conviction. « Oh, voilà un petit truc que je ne connaissais pas encore. Les terribles en connaissent bien d'autres. Vous leur avez échappé jusqu'ici, mais un jour, ils vous tiendront. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela. Je crains deux choses. J'ai peur qu'ils ne vous tuent, et j'ai presque aussi peur que vous leur échappiez. Car s'ils ne réussissent pas, c'est vraiment la fin de tout. » Et maintenant, arrêtez-moi, je vous en prie à genoux, envoyez-moi en prison. Je vous jure que je ne suis pas folle, Longue. Je n'ai jamais été aussi calme de ma vie, mais je n'en peux plus, arrêtez-moi. Il ne répondit qu'en lui montrant la lettre qu'il venait de recevoir.
« Mais je n'ignore rien, » dit-elle.
« C'est pour le 16 août ?»«
Oui, qu'attendez-vous ?»«
Oh, rien de bien agréable pour moi, » fit-il avec une moue.
« Oh, ça, vous pouvez y compter. Vous ne sauriez imaginer ce qui vous attend à Herz-13. »
La menace le glaça. Il ne répondit cependant pas. Il observait toujours les mains gantées. Alors elle enleva les gants salis par le magnésium, en sortit une nouvelle paire de son sac et les mit.
« Je pensais bien, » dit-elle avec lassitude, « que je n'obtiendrais rien de vous. Où est cette demoiselle Sanders ?»«
Dans une maison de santé. »
« En sûreté ?»«
Un policier placé à chaque entrée, et à sa porte même, quelqu'un est assis jour et nuit.
»« Oh, mais cela ne les empêchera pas de s'en emparer s'ils le veulent. »
« On verra. »«
Ne pariez pas, vous perdriez. »
Sur le pas de la porte, elle se retourna et lui dit
« Nora Sanders est indispensable au terrible. Et vous ne vous doutez guère pourquoi ?»«
Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont complètement à sec. »
« Qui vous a dit cela ?»
On la sentait sincèrement étonnée. Il souriait. « Mais oui, à sec. Quelqu'un s'est servi de la réserve. Il faut bien y remédier. »«
Vraiment ?» dit Mademoiselle Cravel à voix basse. « Alors, raison de plus, faites attention à Nora Sanders. »
L'ongle ne doutait pas de la sincérité de son accent. Quand il fut seul, il saisit une feuille de papier où il avait tracé le plan de la maison de santé où Nora Sanders s'était soignée. Il étudia ce plan avec beaucoup d'attention, essayant d'imaginer toutes les possibilités. Il décida de se rendre sur place. La directrice était une femme active, d'humeur agréable, et elle se prit à rire lorsqu'il lui fit part de ses craintes.
Mais voyons, votre protégé est tout à fait en sûreté. N'avez-vous pas eu soin d'entourer la maison par un véritable cordon policier ?
Lorsqu'il pénétra dans le hall, des plaintes se faisaient entendre à l'étage au-dessus. La directrice expliqua :
Oh, ce n'est rien, on nous a amené cet après-midi une jeune fille en pleine crise nerveuse. Elle est bruyante et désagréable pour les autres malades. Aussi ai-je demandé au docteur de la faire transporter dans une maison spéciale. »
L'ongle sortit un peu tranquillisé. Cependant, malgré lui, les avertissements d'Alice Cravel lui restaient en mémoire. Chez lui, son valet de chambre avait placé une petite note au crayon sur son bureau. « Veuillez appeler le sergent Rouge. » Arnold demanda la communication. « J'ai du nouveau, » dit Rouge. « Puis-je venir vous parler ?»« Oui, arrivez vite. » Un quart d'heure plus tard, le sergent s'annonçait en compagnie d'un garçon maigre qui était un des plus sûrs informateurs de la police. Cet homme était connu parmi le monde de la pègre où il réussissait à rester populaire tout en se faisant respecter. « Dites à l'inspecteur Long ce que vous savez, » dit Rouche à son homme. Ce dernier semblait ne pas être à son aise. Il passa sa langue sur ses lèvres sèches, puis commença à parler avec hésitation.
« Je crois que celui que vous cherchez est connu « sous le nom du professeur, » dit-il. « Oh, je l'ai souvent vu, ça et là. Il connaît tous les chefs de bande. »
Comment est-il? Oh, pas aussi grand que vous, mais un peu plus que moi. Toujours habillé de noir, avec une cravate molle, nouée à l'artiste. Quel âge à peu près? Oh, difficile à préciser, mais il n'est plus très jeune. Ses cheveux sont blancs, il en a beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle le professeur. Jamais on ne le voit dans les bars. Il donne ses rendez-vous en plein air, près du pont du canal le plus souvent. On prétend que c'est un snob fort riche. Le vol ne l'intéresse pas. Le travail qu'il demande est plus spécial et plus difficile. Et où peut-on rencontrer cet homme? Oh, impossible de vous le dire, car les rendez-vous qu'il donne sont très irréguliers et ceux qu'il emploie sont plus muets que des huîtres bien fermées. Tenez, il y a quelqu'un qui travailla autrefois pour lui, Harry. Ben, cela lui a pas porté bonheur. Long donna quelques instructions afin d'être prévenu tout de suite si par hasard le professeur se montrait. Pour la première fois depuis que l'ombre de Clyde Shelton le hantait, le détective était inquiet. Cela tenait peut-être à ce qu'il n'était plus seul en jeu. L'attaque semblait être surtout dirigée contre Nora Sanders. Il était très fatigué. Il espérait enfin dormir cette nuit et il commençait à se déshabiller lorsqu'il entendit l'appel du téléphone. Il prit le récepteur. Rouge, sans doute, se dit-il. Mais bien qu'on essayât de déguiser la voix, il reconnut Alice Cravel. C'est vous, Long? Faites sortir Nora Sanders immédiatement de la maison de santé où elle se trouve et ne perdez pas une seconde. Mais pourquoi? Ne perdez donc pas votre temps à poser des questions inutiles. Agissez! Vous avez à peine une demi-heure devant vous. Mais à ce moment, il entendit qu'on le raccrochait de l'autre côté. Chapitre 33. Cet avertissement n'était-il qu'une ruse? Long n'arrivait pas à suspecter entièrement Alice Cravel. Selon lui, elle était capable de sincérité. Il appela au téléphone la maison de santé. La directrice avait quitté l'établissement, mais la sœur de garde lui donna les renseignements les plus satisfaisants. Votre collègue est ici. Rien ne s'est produit et Mademoiselle Sanders dort tranquillement. Il fit appeler son détective et obtint le même rapport. Il se dirigea alors lentement vers sa salle de bain, tourna le robinet, hésita quelques secondes, puis, se ravisant, se rhabilla. Ce ne fut que lorsqu'il fut complètement prêt à sortir qu'il se sentit un peu ridicule. Après tout, qu'allait-il faire à la maison de santé puisque les communications qu'il venait de recevoir lui donnait tout apaisement. La nuit était belle, les trottoirs et les chaussées étaient très animés. C'était l'heure de la sortie des théâtres. Des autos rapides allaient et venaient. En passant par Berkeley Square, il lui vint à l'esprit qu'il pourrait, malgré l'heure tardive, parler un instant à son père. Il vit de la lumière dans l'hôtel, sonna et demanda au valet de chambre si Sir Godfrey était là. Long remarqua le visage inquiet du domestique qui hésitait à répondre. Mais enfin, où est mon père? Ben, je ne sais pas, monsieur Arnold. Il est sorti il y a à peu près 1 heure pour mettre une lettre à la poste, car vous savez que Sir Godfrey ne confie à personne le soin de porter son courrier. Mais généralement, il ne s'absente que quelques minutes. Arnold pénétra dans l'hôtel. Toutes les lumières étaient allumées. Son père avait donc l'intention de rentrer immédiatement. Il était assez maniaque quant à la dépense. Avait-il son chapeau? Oui, monsieur, son chapeau et sa canne. L'un des tiroirs du bureau de Sir Godley était entrouvert. Arnold savait que, dans ce tiroir, son père gardait un Browning. Il fut surpris de trouver vide l'emplacement de l'arme. Il rappela le domestique, qui était très au courant des habitudes de Sir Godley, lui demanda si ce dernier prenait généralement son revolver pour aller jusqu'à la poste. « Oh, généralement non, monsieur, mais depuis quelque temps, il ne le mettait point. » C'est alors que les yeux du détective se dirigèrent vers la cheminée. Le foyer était plein de papiers brûlés. Évidemment, il ne se reconnaissait aucun droit à se mêler aux affaires de son père. Mais un instinct le poussa à une rapide perquisition parmi les cendres. Il remarqua qu'un petit paquet de lettres avait été brûlé. Dans le milieu du paquet, quelques fragments de papier avaient échappé aux flammes, entre autres une partie d'adresse et une date. Il lut le mot « Hagen » et « 12 janvier 1881 ». Il retourna la feuille où se distinguèrent encore quelques mots d'une écriture nette. Le moins que vous pouviez faire était « Frère Grise ». On pouvait aussi reconnaître une traite tirée sur son père, mais il était impossible de distinguer le nom de celui qui avait tiré cette traite. Arnold vit que le valet de chambre l'observait, et il dit en rejetant dans le foyer les papiers froissés « Oh, inutile de dire à mon père que je me suis permis. » Le vieil homme, qui souvent avait assisté aux discussions entre le père et le fils, acquiesça en souriant. « Mais où pensez-vous qu'il soit allé, monsieur ? » dit-il. Long haussa les épaules et sans répondre, et se retira. Il se dirigea alors vers la poste. Il rencontra le policeman de service, qui connaissait Sir Godley. Cet agent avait en effet vu le banquier, lui avait même parlé. Il précisa « Oh, votre père avait l'air bizarre. Pendant que je lui souhaitais le bonsoir, un cab vint à passer. Je pense que Sir Godley a dû reconnaître la personne qui s'y trouvait. Un vieux monsieur avec des cheveux blancs et une large cravate souple nouée d'un gros nœud et des lunettes d'écaille. » Long eut un mouvement en songeant à la description du professeur. Alors que fit mon père ? Bien, il traversa précipitamment la rue, arrêta un taxi qui passait à vide, monta dedans et la dernière chose que je remarquai fut qu'il se penchait à la fenêtre en donnant des instructions au chauffeur et en entendant le bras vers la voiture qu'il précédait. J'ai eu l'impression qu'il cherchait à rattraper le monsieur à la cravate flottante. Long revint à la maison de son père assez perplexe et il s'employa à rassurer le valet de chambre. Puis il reprit sa route. La marche le stimulait. Ses pensées se succédaient, diverses et rapides. Il cherchait à trouver une explication à la conduite de son père. Mais que diable pouvait vouloir Sir Godley au professeur ? Et pourquoi le poursuivait-il ? Arnold sentait confusément que le professeur était le cœur et le cerveau de cette vaste organisation, les Terribles. Il était près de minuit quand il arriva par des rues désertes à la maison de santé. Un de ses hommes le salua. « Aucun incident, dit-il. On est simplement venu chercher la jeune femme amenée dans l'après-midi et, malgré ses cris et ses protestations, l'a transportée. » Long se souvint en effet que la directrice lui avait parlé de cette malade et de son transfert vers une autre maison. Il entra. Le policier de garde à l'intérieur répéta les paroles de son collègue. La garde de nuit vint dire à Long que la jeune fille dormait profondément. « Ne pourrais-je pas la voir ? Blagarde était habituée à tant de choses extraordinaires qu'elle ne témoigna d'aucune surprise. Il la suivit jusqu'au premier étage. Elle ouvrit la porte de Nora et lui fit signe d'entrer silencieusement. Une veilleuse brûlait sur la table de nuit et donnait une lumière à peine suffisante pour distinguer la forme du corps étendu. La jeune fille dormait, le dos tourné vers la porte, et tout ce qu'on pouvait voir d'elle était une boucle de cheveux tranchant sur la blancheur du drap. Il regarda, fronça le sourcil. Cette boucle était trop brune à son gré. D'un bond, il traversa la chambre, repoussant la garde, appuya sa main sur l'épaule de la dormeuse, qui tourna des yeux effrayés vers le policier. Ses yeux étaient bruns dans un visage maigre et tiré. « Mais que faites-vous ? » criait la garde. En même temps, elle distinguait à son tour le visage sur l'oreiller. « Oh mon Dieu, ce n'est pas Mademoiselle Sanders !» Non, ce n'était pas Nora. Nora, la véritable Nora, roulait en ce moment dans une ambulance vers Hirtshals, où le directeur de l'hôtel était prêt à la recevoir. Et cette fois, ce n'était pas un Jackson Crayley qu'elle aurait affaire, mais un homme qui n'avait jamais connu ni crainte ni pitié.